אנחנו קוראים את המאמר אהבת השם
לישון l'article l'amour du créateur l'amour du créateur dur et nous sommes au titre et adhérer à lui on répète l'amour du créateur et l'amour des créatures titre et adhérer à lui. Il nous reste encore un sujet à examiner. Si tout le but de la Torah et de toute la création n'est que d'élever l'humanité civile pour devenir digne de cette merveilleuse sublimité et pour adhérer à lui, il aurait dû nous créer avec cette sublimité, au lieu de nous faire travailler dur en faisant des efforts dans la création et dans la Torah et les commandements. Nous pourrions expliquer cela par les mots de nos sages. Celui qui mange ce qui ne lui appartient pas, la peur de le regarder en face, a peur de regarder le Créateur en face. Cela signifie que quiconque se nourrit du travail d'autrui a peur, la honte, de regarder sa propre forme, car sa forme est inhumaine. Parce qu'aucun manque ne sort de sa perfection. Il nous a donc préparé ce travail afin que nous puissions avoir du plaisir en travaillant de nos propres mains. C'est pourquoi il a créé la création d'après cette bassesse. Le travail dans la Torah et commandement nous révèle de la bassesse de la création. Et par lui, nous atteignons notre sublimité de nous-mêmes. Par nous-mêmes. Alors, nous ne ressentons pas la joie et sa bonté qui nous viennent de sa main si généreuse, comme un cadeau, mais comme nous appartenons. Cependant, nous devons encore comprendre la source de la bassesse que nous ressentons en recevant un cadeau. Nous allons le faire à l'aide de la loi bien connue des spécialistes ou des sages de la science naturelle, stipulant que la nature et la loi de chaque branche sont comme sa racine. Tout ce qui s'applique à la racine, sa branche l'aimera, le convoitera et s'en servira. De même, toute chose qui n'est pas dans la racine, la branche s'en éloignera, ne pourra pas la tolérer et lui nuira. Et parce que notre racine est le Créateur et qu'il ne reçoit pas, mais donne, nous ressentons de la peine et bassesse à chaque fois que nous recevons d'autrui. Maintenant, nous avons clarifié le but d'adhérer à lui. La sublimité de cette adhésion n'est que l'équivalence de la branche à sa racine. Et toute la question de la bassesse n'est que l'éloignement de sa racine. En d'autres termes, chaque créature, dans la voie est corrigée en vue de donner plus à autrui, devient plus sublime et peut adhérer davantage à lui. Cependant, chaque humain, dans le chemin et la réception et l'amour de soi, est encore plus avili et plus éloigné du Créateur. Pour remédier à cela, la Torah et les commandements nous ont été préparés. Au début, nous devons observer l'olishma, pas en son nom, c'est-à-dire sans recevoir de récompense. C'est le cas pendant la période de la katnout. pour nous éduquer. Quand une personne grandit, on lui apprend à s'engager dans la Torah et les commandements, l'Ishma, en son nom, ce qui signifie apporter contentement à son Créateur, et non par amour à des fins personnelles. Et maintenant, nous pouvons comprendre les paroles de nos sages. Qu'importe au Créateur que l'animal soit abattu en lui tranchant la gorge ou en lui tranchant la nuque, car les mitzvot ont été données, n'ont été données que pour purifier les créatures. Mais nous ne savons toujours pas qu'est cette purification. En ce qui concerne ce qui précède, on sait que le non-sauvage engendra un homme et nous sommes complètement immergés dans la souillure et la bassesse de la réception pour soi et dans l'amour de soi, sans aucune étincelle d'amour ou de don envers les autres. Dans cet état, il se situe au point le plus éloigné du but de sa racine. Et quand la personne grandit et est éduquée par la Torah et les commandements définis seulement dans l'intention d'apporter le contentement à son Créateur et pas du tout à des fins personnelles, elle arrive au degré du don à son prochain par le remède naturel de l'étude de la Torah et des commandements en son nom, que le donneur de la Torah, comme nos sages l'ont dit, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé pour lui la Torah comme une épice. De cette façon, l'être humain se développe dans les degrés de la sublimité ci-dessus jusqu'à ce que l'homme perde toute forme d'amour de soi et de réception pour lui-même. Tous ces attributs ne sont que pour donner ou de recevoir pour donner. Nos sages ont dit à ce sujet, les commandements n'ont été donnés que pour purifier les individus. Et alors, il adhère à sa racine, comme on dit, et adhérer à lui. Des questions? Tout est clair. Il n'y a pas de questions. C'est très bien. Oui, nous avons une question. Rav, il parle ici qu'on doit commencer par l'olishma et lorsqu'on atteint l'ishma, alors on adhère à lui, au Créateur. Plus nous progressons vers l'ishma et que nous y rentrons, ça influence aussi les autres personnes qui s'engagent dans la Torah, ça va les mettre en pression. Ils vont pas identifier ça. Est-ce que à nous de apporter au monde ce lolishma pour qu'ils ressentent qu'ils rentrent dans lolishma, dans des actions d'union? Oui, si nous parlons des actions d'union, alors on les enseigne que ça vaut la peine d'être dans l'union. Et ils recevront la force de lolishma. Oui, ils recevront la force de pas en son nom, lolishma. Et c'est bien aussi. Voilà. Pas de questions. Il parle ici de joindre Israël. Et je sais qu'il y a des mitzvot. Quand ma fille est née, je ne pouvais pas faire ce pidyon comme pour un garçon. Je ne peux pas respecter toutes les mitzvot si je ne me munis pas avec les amis. Absolument. Ce n'est que dans la globalité que nous pouvons observer toutes les mitzvot. Alors, c'est un principe que ce n'est que par l'union qu'on peut réaliser toutes les mitzvot comme il se doit. Oui? Il écrit ici qu'il atteint le degré de l'influence à autrui par ce remède. C'est un remède naturel. Qu'est-ce que c'est que ce remède naturel? Remède, c'est une sorte de hocus-focus. Mais qu'est-ce que c'est naturel? Qu'est-ce que c'est dans la nature de ce travail? C'est dans la nature de la création du monde. La nature de la nature. De quoi il parle? Qu'est-ce qui se trouve de façon naturelle dans la nature? Dans la nature, tout est de façon naturelle. Et si nous faisons toutes sortes d'actions qui sont connectées à une action naturelle, alors nous n'éveillons pas cette action, mais elle nous influence. Ces actions, si je comprends, c'est le don envers autrui, l'union entre nous, oui, et ce sont les actions qui éveillent le plus la lumière qui nous corrige, oui. Au plus, mais on n'est pas capable de le faire. Pourquoi on n'est pas capable? Du fait de notre ego, nous nous sentons toujours un peu plus élevés que l'autre. Oui, ben c'est une indication. Alors qu'on travaille dans ce lien, dans ce point juste, oui, mais elle ne nous donne pas cette indication. Cette indication ne nous permet pas de nous approcher d'autrui et de l'aider. Alors, qu'est-ce qui peut aider plus? Si nous faisons l'union entre nous, comme il est écrit dans la Torah et les mitzvot. Quelle sorte d'union? Il écrit au début de l'article que nous arrivons à nous occuper beaucoup des détails, mais on n'arrive pas au point central. Alors, on doit essayer d'atteindre l'amour. L'amour, c'est la connexion sans condition. Comme une mère avec son enfant, bien qu'il y a des conditions et on doit s'unir sans considérer les conditions, oui, on doit arriver au point qu'on annule toutes ces conditions. Oui, mais tout se trouve à la base de ce lien. C'est parce que nous sommes désir de recevoir. C'est clair?
Rav,
il explique comment nous faisons cette ascension au Créateur alors qu'on est dans la bassesse du désir de recevoir et qu'il met tout sur le point de Torah et Mitzvot. Vous pouvez définir en quelques mots qu'est-ce que c'est Torah et Mitzvot. Moi, j'écris Torah et Mitzvot, des actions d'équivalence de forme. C'est pas tout. Vous avez tout coupé. Torah et mitzvot veut dire ce lien entre toutes les parties de la Torah, entre toute la nature et le Créateur. Ce lien entre dans tout, dans absolument tout. Et l'homme doit faire ce lien autant qu'il peut, oui. Ma question, l'homme qui écrit cet article pour la première fois, deuxième fois, et qu'on veut marquer quelque chose sur Torah et Mitzvot, avoir quelque chose, qu'est-ce que vous écririez comme explication Torah et Mitzvot, pour qu'il voit qu'il y a quelque chose dont il n'a pas pensé. J'aurais dit que Torah et Mitzvot, c'est... C'est la condition de l'union de l'homme avec le Créateur. Chaim. Oui. C'est connecté aussi avant Rav, Torah et Mitzvot, dans le degré de l'inerte. Est-ce que c'est la forme que l'homme établit ce lien avec le Créateur, mais il ne peut pas être dans l'intention? Est-ce que cette intention, c'est inerte? Rav, il a reçu ainsi de ses parents, et c'est ce qu'il respecte. Mais... dans cette sensation qu'il a, il se trouve en contact, mais il ne ressent pas la réponse, et c'est pour ça que c'est de l'inerte. Il n'entend pas son lien avec le Créateur de l'autre côté, oui? Bon. Oui, Doudi. Pour continuer ce que David a dit, que celui qui n'accepte pas comme ce point d'en haut, est-ce que c'est considéré la foi au-dessus de la raison? Non. Il accepte ça comme c'est la lumière qui doit faire de la sorte. De même que nous recevons des parents. Alors, quelqu'un, si l'on peut dire les parents, alors il reçoit ça de quelqu'un d'autre. Où commence la foi au-dessus de la raison? Ça commence par le fait que l'homme reçoit un lien personnel avec le Créateur. Et où est ici l'opposition? C'est parce que l'homme se trouve... de déconnecter de quelque chose spirituellement, intérieurement, personnellement, je ne sais pas quoi dire, mais il est dans un état où c'est du brouillard pour lui. Alors, au-dessus de quoi il va, quelle est sa da'at, sa raison? Sa raison, c'est pour l'instant, c'est ce qu'il y avait avant. Physique. Et dans la foi au-dessus de la raison, la foi au-dessus de la raison, alors qu'il voit maintenant qu'il y a une espèce d'esprit de roar dans le monde, et il veut se connecter à ça. Mais lorsqu'il se connecte à ce roar, où est sa raison, sa date, qui est-il? Par lui-même, il ne sait pas. Il se trouve dans un brouillard, ainsi que nous disons. Mais quel est cet état de brouillard? Pourquoi c'est bon et pour qui c'est bon? Cet état de brouillard, c'est que pour le bien de l'homme, pour qu'il se déconnecte, au moins, peu soit-il de son monde physique, matériel, et qu'il commence à créer, à se créer son monde spirituel. C'est un état momentané, ce brouillard, c'est sa réalité momentanément qui lui permet de se déconnecter de l'état physique et un peu commencer à rentrer dans l'état spirituel qui du futur, qui viendra. Quel est cet état nouveau dans lequel il est né? C'est l'état où il progresse pour se lier d'une façon différente à la spiritualité, au Créateur. Qu'est-ce que c'est spiritualité? Quel est cet état spirituel quand l'homme rentre? Spiritualité, c'est quelque chose qui ne rentre pas, qui ne passe pas à travers du matérialisme. Oui, mais c'est une matière nouvelle, une nouvelle forme, oui. Alors, qu'est-ce que la spiritualité? Spiritualité, c'est ce qui n'est pas revêtu dans la matière, c'est spiritualité. Oui, mais ça, ça a à faire avec le physique. Mais qu'est-ce que la spiritualité elle-même? La spiritualité, tout ce qui se réalise sans revêtement du matériel. Vous pouvez définir plus, non? Dans quoi l'homme s'accroche dans cette situation? Il ne s'accroche pas, c'est son problème, parce qu'alors il se sent pas. Il sent pas qu'il a une base. Il s'accroche pas. Simplement, il est entre ciel et terre, comme on dit. Mais qui est-il? Quel est cet homme dans ce point-là, entre le ciel et terre? Je ne peux pas te le définir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-il? Il est une créature. Oui, moi, je connais moi, mon désir, ma raison. Qui suis-je dans ce nouvel état entre le ciel et la terre? Aidez-moi, vous tous, à comment l'appeler. Que nous, c'est comme de ce monde, on tombe, et dans le monde futur, on n'arrive pas encore. Quel est le bénéfice dans cet état, dans ce transit entre ciel et terre? Il ne peut pas y avoir de transit parce qu'il y a des différentes forces de nature complètement, avec des lois, des forces, des conditions, tout est différent. Alors, quel est le but de ce transit entre ciel et terre? Le transit, c'est d'élever l'homme au degré suivant. Pourquoi l'homme a un transit entre le physique et spiritualité? Et j'entends qu'il y a quelque chose entre ciel et terre, non? Seulement le transit. Merci. Benzi? J'ai une question sur l'importance que Baal HaSulam donne à tuer, à tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui? Qu'est-ce que Baal HaSulam, qu'est-ce qu'il veut nous transmettre, la sagesse de la Kabbale envers tous, que c'est une loi globale de la réalité, que toutes les parties de la réalité, tout est connecté ensemble, sous forme qu'on ne peut pas les séparer, on ne peut pas les couper. Oui, mais en ce qui concerne l'amour d'autrui, comment c'est chez Baal HaSulam, comment il exprime? Je ne sais pas. Dans tout ce qu'il écrit, il écrit toujours sur l'amour d'autrui. Comment regarder l'amour d'autrui à travers de l'amour d'autrui? C'est qu'il s'accroche à ça, il le sent, et c'est la loi de la réalité à laquelle nous devons arriver. Au travers les gens, des gens, au travers le lien entre les gens, oui, oui. C'est un message de Baal HaSulam, oui. Vous pouvez expliquer un peu plus parce que Baal HaSulam nous parle des mondes, des séphirot, où ici, on regarde Baal HaSulam aussi à travers de, tu aimeras ton ami comme toi-même. C'est ce qu'il nous a ouvert. Qu'est-ce qu'il a ouvert? Cette loi. Qui sera plus proche de nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui.
Et
De tout ce que j'entends, ce que je comprends, c'est qu'il faut qu'il y ait un état où l'homme, toutes ses pensées, ses actions, il y a toujours le Créateur à la base. Ou bien que l'homme travaille quelque part, il a un maître, il y a des exigences, et il s'adapte toujours aux exigences de ce maître. Et l'état le plus bas, qu'il n'a pas ça. Dans le fond, il a seulement sa sensation, les gens autour de lui qui le dérangent, qui l'aident. Et plus la sensation du Créateur est que lui, il est tout, qu'il dirige toute la réalité. Pour lui, c'est une élévation. C'est vers la spiritualité. Est-ce qu'il y a un état où non seulement, ça veut dire il y a déjà une présence, il ressent un feedback et il en est sûr que ce qu'il ressent vient de la force supérieure. Alors, cet état intermédiaire, c'est jusqu'à ce qu'il ressent ça, ça veut dire qu'il a une preuve que sa sensation, il peut être aussi dans un état où il n'est pas sûr de lui-même, peut-être c'est juste ce qu'il ressent, peut-être pas. Oui, alors qu'est-ce que c'est par rapport à ça? Qu'est-ce que c'est que pourvu que vous me laissiez de côté et que vous observiez ma Torah? Soit, ne pense pas à moi, fais ce que je te dis. Oui, comment ça va ensemble? C'est très bien, ça veut dire que tu n'as pas à prier un certain esprit, mais tu dois simplement observer, réaliser ce lien avec toi. Tout est devant toi, un par un. Ça veut dire sans la sensation du Créateur. Oui, tout viendra par la suite. L'amour du Créateur envers nous nous donne de l'honte parce qu'on ne peut pas lui rendre l'amour. Comment l'amour des amis ne donne pas ce même résultat, soit la révélation de la haine? C'est un phénomène psychologique, si je peux dire. Aussi, dans l'amour des amis, moi, je dois ressentir que c'est l'amour du Créateur qui me vient, qui vient. Voilà.
Rav,
j'ai entendu que vous avez dit tout à l'heure de rentrer un peu dans l'état spirituel du futur qui viendra. Et le titre est « Adhérer à lui ». Est-ce que je peux dire qu'adhérer au Créateur, c'est chercher la forme? Ça veut dire quelque chose qui va être plus dans le don, chercher cette forme et prier le Créateur qu'il me montre cette forme. Oui, et de même dans la dizaine, chercher notre forme qui est dans le don plus l'un envers l'autre. Oui. Voilà. Vous avez dit à Dodi que spiritualité, c'est ce qui ne se révèle pas dans le matériel. Et à Asaf, vous dites que le don, c'est une influence de la spiritualité. Est-ce que ça ne se révèle pas en l'influence de l'homme envers l'ami? Est-ce que ça se révèle pas dans la matière? Non? Pourquoi? Parce que c'est le don. Oui, mais ça se révèle dans les amis. Pour nous, c'est du matériel, c'est le matériel. On en parlera. Pas le matériel, mais dans la matière. On en parlera pour que ce soit plus clair. Pourquoi c'est mieux de répondre du travail personnel, de se réjouir de du travail personnel? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il dit que si quelqu'un n'a pas fait des efforts, il peut pas avoir plaisir. Mais s'il fait des efforts, il peut se réjouir de ce que le Créateur donne. Moi, je suis bien heureux sans travail. Oui, tu te réjouis suffisamment. Pourquoi tu as besoin de travail? Mon travail, Si je travaille, je travaille, et je reçois ça, je me réjouis. Ça veut dire, c'est moi. Moi, je me dis, c'est moi qui ai fait ça. À qui je dois faire plaisir en dehors de moi-même? Léodot, remercier. À qui je dois remercier plus que moi-même? Et si je reçois un cadeau, c'est sans raison, on dirait. Alors, vraiment, je me dis, waouh, il y a vraiment, il est bon, il est bienfaisant. Et alors, ça éveille le remerciement intérieur. Alors, pourquoi c'est meilleur de travailler pour le plaisir? Je ne sais pas ce que vous dites. Je ne comprends pas. Lev demande, si moi je travaille en résultat, je reçois un plaisir et je me dis, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai fait. Mais si je ne fais rien, je reçois du plaisir, c'est sûr que ça ne vient pas de moi, mais ça vient du Créateur et la forme est plus agréable. Pourquoi est-il écrit l'opposé, que le travail qu'on reçoit de mon travail est meilleur? Ah, parce que je sens que je suis ce maître de ce plaisir. J'ai gagné, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui agis. Moi, j'ai reçu du plaisir, c'est la vérité. Et le Créateur, je n'ai pas...
Non.
Je n'ai pas, je ne suis pas maître de quelque chose. Pourquoi? Pourquoi me mentir? Pourquoi moi je dois créer un mensonge que moi j'ai fait quelque chose? Non, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous avez entendu pourquoi? Pourquoi je dois me mentir à moi-même que je travaille pour faire quelque chose et que le plaisir vient de mon travail? Pourquoi ne pas? Il y a un temps dans ma vie que je voyageais, je prenais des stops, j'arrêtais des voitures et je me disais, je veux que le Créateur me donne ce qu'il veut. Et tout à coup, beaucoup de choses se sont ouvertes devant moi, des merveilles. Je ne pouvais pas croire. Une abondance incroyable s'est ouverte devant moi. Je me suis mis dans les mains du Créateur. Et dans ça, j'ai révélé qu'il y a une force merveilleuse qui gère, qui fait agir tout le système. Et qu'il y a quelque chose de plus que des gens qui luttent l'un envers les autres ou qui luttent tout le temps dans leur vie. Si j'avais été un si bon travailleur, je n'aurais pas révélé tout ça. Alors, quelle est la question? Pourquoi est-ce que c'est meilleur de se réjouir de ton travail plus que du cadeau du Créateur? Et si je travaille pour quelque chose, je me mens à moi-même, que ça vient du fait de ma force, que c'est moi qui ai créé le plaisir. Et c'est moi qui mène, qui dirige tout ce processus. Est-ce que ça vient du Créateur? Et je me dis, je ne suis pas en mérite de recevoir tout ça. Mais le Créateur donne malgré tout, puisqu'il est dans le don, il est grand. Alors pourquoi ça vaut mieux la peine de travailler de la sorte? Je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas. Répondez-lui.
Je
Nous apprenons ça d'une façon claire. Le plaisir que l'homme reçoit du don est bien plus grand et important, plus que le désir qu'il va recevoir dans son désir de recevoir de base. Oui. Alors, il demande pourquoi on doit faire des efforts. Parce que c'est toi qui es dans le don. C'est de ton travail aussi. Tu fais tout pour apporter le contentement au Créateur. C'est ton don, c'est pas réception. Et dans ça, tu reçois ce plaisir spirituel et non pas un désir matériel. Je ne t'ai pas compris non plus.
Lev,
il aurait pu ne rien faire et recevoir du plaisir du Créateur. Mais ce plaisir est dans les kelim de réception. Et pourquoi le plaisir dont parle Baal HaSulam est plus élevé? Parce que l'homme s'attribue le travail là où il apporte le contentement au Créateur. Il fait un acte de don et c'est pourquoi qu'il peut recevoir plus de plaisir alors qu'il est dans le don. Donc, le plaisir de don est plus de qualité, plus élevé que ce plaisir de réception. Oui. Peut-être que mon travail dans la foi que le Créateur s'occupe de tout. Et c'est là qu'il y a du plaisir que je reçois. Si moi, je travaille, alors seulement je travaille dans la foi. Dans ce monde, ce travail, c'est si moi je reçois quelque chose d'en haut, alors disons que je n'ai rien et que tout ce que j'ai vient du Créateur, c'est comme si je ne veux rien pour moi-même. C'est facile de donner ce que tu as reçu du Créateur. Et moi, toutes les mitzvot, moi, j'ai payé des années de la sorte et je n'ai rien reçu et je n'avais rien à donner aux autres. Mais si moi, je travaille dans la foi, au-dessus de la raison. C'est le plaisir viendra pas de mon travail, c'est dans la raison. Mais c'est la foi, dans la foi, de la foi. Alors, je n'ai rien, je peux donner tout ce que je reçois. Oui? C'est clair, ça c'est clair. Peut-être rajouter simplement qu'il n'y a pas de lumière sans cli, sans effort, nous ne recevons aucune lumière d'un côté. Et de l'autre côté, l'homme doit dire, si ce n'est pas moi, qui? Et à la fin du travail, il doit dire que celui qui m'a donné la possibilité de travail, de faire les mitzvot et les actions, tout vient d'il n'y a rien en lui depuis le départ. Peut-être que c'est ce qu'on devrait dire au départ. Et c'est ce point de discussion. Bon. Pour continuer, nous trouvons dans un processus où le CLI mondial, nous sommes dans la préparation au congrès du 18-19 du mois. Et la préparation au congrès, on apprend le contenu, on a une équipe merveilleuse qui dirige tout ça. La question, comment laisser pendant le congrès de la place pour le Créateur, que ce n'est pas nous qui avons organisé le congrès, à partir de maintenant, de nous préparer dans ce lieu sacré pour la révélation du Créateur.
et
créer cet espace. Quoi devons-nous attendre? Qu'est-ce qu'on doit dessiner là-bas? Que entre vous, vous ayez une grand espace. Et que là-bas, le Créateur va se révéler entre vous. Lorsque nous créons quelque chose, on programme quelque chose, on le remplit par nos désirs, oui. Mais ici, ça doit être quelque chose. Il n'y a rien en dehors des désirs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce désir au Créateur où on doit y arriver? C'est moi pour mon amoureux pour moi, c'est l'union, c'est le contact, c'est l'union. Peut-être on pose différemment. Dans quelles questions et manques on doit arriver au congrès pour qu'on commence à le préparer dès maintenant? Oui, mais vous avez préparé le congrès. Moi, je ne sais pas. Oui, on prépare, on pense aux actions, au contenu, à l'ordre. Mais ce n'est pas quelque chose de technique. C'est une action qui doit mener à quelque chose. Oui? Comment on crée ce manque à ça? Quel est le sujet? Quoi, au-dessus? C'est au-dessus de la raison. Oui, mais tu sais que tu dis que tu ne sais pas quel est le sujet du congrès. On s'élève au-dessus de la raison, c'est ça le sujet. Ce sont des mots. On s'élève au-dessus de la raison, ce sont des mots. Mais on doit le remplir pour que ça soit réel. Oui, alors nous devons vérifier qu'est-ce que c'est la raison, au-dessus de la raison, qu'est-ce que c'est que nous nous élevons à un tel degré. On doit le faire. Ça veut dire qu'on doit venir au congrès ne sachant pas qu'est-ce que c'est, avec toute la clarification, alors que nous ne savons pas qu'est-ce que c'est au-dessus de la raison, tout le contenu. Avec quoi? Avec quelle exigence nous devons venir? Notre désir est de connaître notre roi. Voilà. Et alors que ça nous sera clair quel est notre désir, nous devons l'exiger de lui. Oui, exiger du Créateur comment nous élever à un tel degré. Et comment ça sera clair pour nous quel est ce désir? Il va se révéler. Qu'il se révèle comme quoi, comme bon bienfaisant, qu'il maintient ce don, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et que toutes ces exigences spirituelles se trouvent en lui.
Non.
Et c'est clair? Concernant des événements, dans deux jours, nous avons un grand événement et c'est une opportunité d'apporter des nouveaux amis. C'est un événement avec beaucoup de signification, le jour de l'indépendance, et chacun peut apporter quelqu'un qu'il connaît pour qu'il sente qu'est-ce que c'est que la sagesse de la Kabbalah. Ainsi que l'homme qui arrive et qu'il n'a pas de lien. Disons, il vient avec un ami et lui, par lui-même, il n'apprend pas la sagesse de la Kabbale. Alors, avec quel bagage, si l'on peut dire, qu'est-ce qu'il prend de cet événement? C'est moi, si je suis une soirée avec le groupe où tous sont occupés à la révélation du Créateur, et si je m'inclus à eux en ce même moment, moi aussi, je peux sentir le Créateur. Oui, la vérité, c'est que ces gens qui viennent, ils disent qu'ils sont toujours en grande émotion. Comment cette impression reste en eux, les influences? Si on ne s'occupe pas de cette personne, ça ne reste pas. Oui, mais est-ce que ça, il développe en lui un désir pour plus? Ça dépend. Je n'ai rien à rajouter. Voilà. Tout dépend de l'homme. C'est clair? Bon. Alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Alors, nous avons des annonces. Boris, chers amis, nous, on veut raconter sur les congrès miroirs que nous aurons partout dans le monde. Imaginez-vous que vous allez dans la rue ou dans un mall et vous trouvez un ami, disons Kos, Hollande ou Abzula, vous ne seriez pas ému. Est-ce que ça ne vous aurait pas changé la sensation de toute la journée? Maintenant, nous avons l'opportunité à ces congrès vraiment de rencontrer les amis en un seul lieu. Ce sont des mérites très spéciaux que les amis du monde entier préparent. C'est une opportunité de venir, pas seulement pour 5 minutes, pour voir Kos au milieu de la rue, mais être avec ses amis, les anciens, les nouveaux, tout ce congrès ensemble. Je voudrais préciser 2 choses. Tout d'abord, on se à Tashkent, il y a des amis qui se rencontrent, cette zone se livre. Un autre point, c'est Kiev. Et c'est ce qui est spécial à ce moment, c'est qu'il y aura des amis anciens et d'autres qui sont invités. Et nous avons une opportunité de nous unir et d'avoir beaucoup d'émotions. Autre chose aussi, Brésil, les amis de tout Brésil vont voyager à São Paulo et ils auront un grand rassemblement. Aussi en Colombie, il y a des amis qui vont venir de l'Amérique centrale, d'Équateur, de l'Argentine. Il y a plusieurs rassemblements partout dans le monde. Alors, mettez-vous au courant, nous avons dans le site du congrès, on a tout aussi incluant l'enregistrement. Et nous avons les anciens, les nouveaux, ils vont recevoir beaucoup, puisque là où ils vivent, ils vont recevoir, et leur participation, ils recevront beaucoup de force. L'essentiel est de sortir de l'habitude et de recevoir beaucoup de force au congrès. On se rencontrera au congrès. Mechaim. Nous avons d'autres annonces. Vous êtes invité au congrès mondial de Kabbalah au-dessus de la raison, 18, 19 et mai. On s'élève au-dessus de la raison dans le site convention.clio.one pour vous enregistrer. Qui es-tu, peuple d'Israël, la nation d'Israël, le 9 mai 2024? Et c'est pour les locaux. Il y aura d'un grand buffet, et ça sera, je répète, le 9 mai 2024, et c'est un événement pour tout le public, et pour aujourd'hui, mardi, de midi à 1h, la leçon de l'après-midi, 5h30, nous lisons dans l'étude des 10 séphirotes, et à 19h30, nous lisons dans le Zohar. Et je vous dis à tous, bonne journée. Shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around,
There's only now, only this moment, when we are together,
together as one.